Nova.
Nova.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive.
Salut à tous, on part à la dérive avec un farfadet rêveur, amoureux d'une sirène. Il voyage sur un renne blanc au pays des forains. On a rendez-vous avec le chantre de Dionysos qui joue de la musique comme il joue avec les mots et les images. On embarque pour le merveilleux avec Mathias Malzieu.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
À la dérive avec Mathias, on voyage en Norvège sur un skate et on regarde ses souvenirs en Polaroid plaqués dans les coursives du Zénith. On zébulonne avec un artiste multiforme, héritier de Vian et curieux de tout et encore plus depuis cette greffe de la moelle osseuse et ce nouveau sang qui lui a sauvé la vie. Dans ses veines, la musique, la littérature et le cinéma tourbillonnent. À la dérive avec Mathias Malzieu, on écoute des photos et on hallucine avec un enchanteur qui a fabriqué un pays imaginaire quelque part au sud de Paris.
À la dérive avec Aurélie Sfèze.
Je m'appelle Mathias Malzieu et je suis un raconteur d'histoires. Il y a 4 ans, j'ai été greffé de la moelle osseuse et j'ai changé de groupe sanguin. Prisonnier d'une chambre stérile à l'écart du monde, l'imagination était mon seul moyen de m'évader.
Je vois Mathias Malzieu au loin sur la passerelle. C'est la passerelle du Zénith, tout au bout du parc de la Villette, dans le 19e à Paris. Bonjour Mathias.
Ça va bien ?
Ça va.
Le Zénith de Paris qui, comme on le disait à l'instant, ressemble à un vaisseau fantôme l'après-midi quand il n'y a pas de concert le soir. C'est un petit peu comme dans le voyage de Chihiro de Miyazaki quand il visite le parc d'attractions.
Et là, il fait tout noir.
Ouais, on a l'impression d'être dans un train fantôme un peu là, tout d'un coup. Et en fait, je vais dans les coursives parce que le Zénith m'a ouvert ses portes pour que je pose mes fenêtres, à savoir mes petites photos que je fais au jour le jour, comme un petit peu de gymnastique créative. Et là, du coup, on est dans le noir.
C'est bien dans le noir, là.
C'est marrant, hein, vous avez vu, là, les gradins et tout.
Vous avez joué, vous, ici, avec Dionysos ?
Ouais, on a joué 2 fois. Une fois qu'un orchestre symphonique d'enfants, 60 musiciens sur scène. Grosse expérience émotionnelle. Je me rappelle notamment de la fin où c'était une chanson qui s'appelle Neige, on a fait tomber de la neige en polystyrène où je balançais les premiers violons dans la foule.
Ah, la lumière fut.
La lumière, on le sent, la radio, la lumière, on la sent. C'est le début de la visite et de notre petite dérive. C'est là qu'on voit à quel point il est immense quand même.
Immense.
La fosse est vide, tout est vide.
Allez, neige, tombe comme avant, éclaire-moi dans la nuit noire, éclaire-moi maintenant, je ne suis plus vraiment comme avant. C'est un cimetière d'étoiles cassées qui a poussé hier dans mes poches glacées. Bon anniversaire.
C'est propre, hein, je m'attendais à ce que ce soit plus cracra.
Il y a des Oompa Loompa comme dans Charlie et la chocolaterie qui viennent faire le ménage. Ils sont cachés derrière les sièges, là on les voit pas, mais ils sont tout petits, ils font 40 cm.
Les lutins du Zénith.
C'est les lutins du Zénith, il y en a plein, hein. j'en fais partie. Hein.
Vous êtes un lutin ?
On m'a souvent, quand j'étais petit, on m'appelait le farfadet. Mais vu que je n'ai pas tellement grandi, ça peut encore m'arriver.
Et le farfadet, quand il est sur une scène comme ça, qu'est-ce qu'il ressent, quoi ?
Quand on est sur scène, on se transforme un petit peu.
Se transformer en quoi ?
On se transforme en un soi-même, mais plus intense.
Effervescent.
Et plus il y a du monde, plus ça fait peur, évidemment.
Vous avez le trac, vous ?
Toujours, ouais.
On dirait pas comme ça.
Si, si, toujours. Toujours beaucoup le trac. Mais c'est parce que j'adore ça que c'est justement que c'est un petit peu sacré, pour moi, que du coup j'ai le trac.
J'en veux encore. Oh, j'en veux encore. Oh, j'en veux encore.
quand ils sont au concert, ils passent par la coursive pour aller aux toilettes, par exemple.
Il y en a qui vont aux toilettes. Donc, y a beaucoup de gens qui vont voir mon expo en ayant très envie de faire pipi parce qu'ils ont bu de la bière. Et en même temps, c'est des toutes petites choses parce que c'est une exposition qui est faite avec. J'ai enregistré avec mon téléphone les photos. Je m'amuse, les bricoles, quoi.
Oui, ça reste c'est fait maison, quoi.
C'est du vraiment très, très fait maison. Et je trouve ça super. Que le fait maison est là, le côté un peu art brut du truc, et sa place dans un zénith.
Voilà, oui, le petit dans le grand.
C'est le petit dans le grand, c'est super important.
Alors, ces photos.
Il faut les faire voir à la radio. Bah, alors, par exemple, celle-là.
L'arc du presque football.
L'arc du presque football. J'étais au Mexique, dans un stade mythique. C'est le fameux stade en fait, où il y a eu la demi-finale de Coupe du Monde 86 entre l'Argentine et l'Angleterre, où Maradona marque le but décisif de la main et qui répond ensuite à l'interview qui dit « c'est la main de Dieu qui a marqué ». Donc c'est un truc qui est mythique au-delà même du football parce que c'était presque géopolitique comme truc. Et on m'a amené tout au bord de la pelouse et la photo qu'on voit là, eh ben, je suis vraiment à... Derrière la ligne de but.
Derrière la ligne de but, c'est vos tennis, là, qu'on voit votre pantalon rouge. Vous foulez un sol sacré.
Exactement.
Derrière, c'est vous, autoportrait.
Oui, alors ça, c'est un truc, c'est que... J'ai eu un petit souci à l'œil, là, de surmenage.
Faites trop de choses et après, il y a tout qui part en sucette.
J'ai un peu explosé et du coup, j'ai eu un petit souci à l'œil. Donc, j'ai dû aller chez l'ophtalmo et ils m'ont mis cette machine et ils m'ont fait attendre. Bon, ben, mettez vos yeux là-dedans. Et ben, moi, j'ai pris une photo parce que je trouvais qu'il y avait un côté viand, en fait, là-dedans, de machines inventées, de trucs. Et avec écrit vieil enfant à barbe 2, et ben, finalement, ça peut prendre de sa poésie.
Le vieil enfant à barbe 2, donc c'est vous. Maintenant, vous avez une grosse barbe.
Ouais,
ça aussi, c'est nouveau.
Ouais, ça fait un an à peu près. C'est un petit masque.
Vous avez changé de personnage.
Mais c'est ça qui est marrant, justement, avec les coupes de cheveux, les barbes et tout. C'est que autant cette barbe-là qui m'amuse aujourd'hui, dans 3 ans, je me trouverai ridicule. Mais peu importe.
Chemin. Allez, on ira un rabbin avec vos cheveux.
Oui. Alors, ça, on m'a fait le coup du rabbin aussi. Rabbin, cow-boy. Je suis un peu rabbin western. Et par les temps qui courent, j'assume complètement. Pourtant, je ne suis absolument pas. De culture juive, mais je veux bien être un rabbin. Je veux bien tout ça, tout ce qu'on met au banc de manière juste, de manière ségrégationniste. Ça se rebanalise à tel point qu'il y a des gens qui le hurlent dans la rue aux gens, tout ça. Et même s'il y a plein de choses fabuleuses grâce aux réseaux sociaux et à Internet et qui nous mettent accès à des choses qu'on n'aurait pas vues avant. Il y a aussi le café du commerce où on n'entendait pas, où en fait des paroles de bêtises crasses restaient confinées entre là. Ben, finalement, il y a un résonateur, mais des trucs bien, bien pourris aussi quand même.
On continue.
Avec plaisir. Vous prenez au hasard les photos, celles que vous voulez.
Un renne déguisé en jouet.
C'est un petit jouet que j'avais ramené de...
De Norvège.
De Norvège. Cette petite tête d'enfant avec des cornes de renne sur la tête, ça peut créer une petite surprise.
C'est un peu étrange.
Il fait un petit peu peur et en même temps, il est très doux.
On a envie de lui faire des bisous sur le ventre.
Ouais, quand même. Et puis moi, j'ai une histoire avec le petit renne. C'est pour ça que le petit renne... D'ailleurs, il y a la photo du petit renne quelque part, là. Le petit renne blanc, c'est une histoire incroyable. Pendant le film que j'ai fait pour Arte, là, qui s'appelle Norvège, l'appel du merveilleux, j'ai croisé un petit renne blanc de 2 heures. Avec du sang au bout de son cordon et tout. Un blanc, quoi, en plus. Donc, hyper rare, hyper beau. Et ça m'a hanté beaucoup.
Il y en a d'autres, des photos de la Norvège, là, quand vous faites...
Ouais, il y en a... Y a là,
on vous voit, c'est votre film. Vous faites à la fois le journaliste, l'explorateur.
Oui, tout à fait.
Après l'opération que vous avez eue, la grève de la moelle osseuse, qui est une transplantation. Ouais. Vous avez on a changé tout votre sang et vous vous étiez promis d'aller en Norvège.
Il y a une boîte de prod qui s'appelle Magneto Press qui m'ont dit « Mais nous, on a envie que tu fasses un film de ça. » Donc là, moi, j'avais les éleveurs de rennes, le peuple Sami, la Laponie, et les fjords, et puis toute l'oralité, les histoires de féerie.
Ils vous offrent un bonnet, là.
Oui.
Un super bonnet. Vous arrivez avec votre votre pull rouge de Papa Noël.
Avec des rennes, oui.
Vous chantez ensemble aussi. Il y a une séquence avec l'éleveur de rennes où il chante un yodel norvégien.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et vous chantez aussi avec votre ukulélé.
Oui.
Nova.
Mathias, hello, la, 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 hello. Alors,
Je vais te chanter une petite chanson que j'ai écrite. Elle s'appelle Vampire de l'amour et justement, elle est connectée à tout ce qu'on s'est raconté. Dans l'amour, l'imagination, le rêve, le magique et tout ce dont on ne met pas de mots dessus. Et je te la chante. D'accord ?
Yep.
Okay ?
Oui, d'accord.
Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau mon ombre se blottit, se divise mon ombre. Je pars en confetti. Vampire,
vampire de l'amour.
Qu'est-ce qu'on a encore? Des masques qui font peur?
Alors le masque, en fait, ça c'est Mexique aussi. Hein. La joie peut faire peur parce que on sait que quand on emmagasine de la joie, on tire sur l'arc de la souffrance éventuelle. Donc, c'est ces histoires-là, ça me plaît un petit peu tout ça. Parce que on est que ça finalement. On est tout le temps traversé de deuil, de choses dures. Et puis des fois, on trouve des solutions.
Et c'est ce que vous dites à la fin du documentaire. Je dois continuer, ouais. Je dois continuer, continuer.
Bah oui, parce que je me suis dit ça vraiment. Là, c'est plus facile à dire quand je suis au bout du Cap Nord. Alors que quand on est dans une chambre stérile, il faut se le fabriquer de toutes pièces, le rêve. Le petit renne dont on parlait tout à l'heure.
On dirait un petit mouton.
Bah ouais.
Es-tu un ange ou une pelote de laine?
Oui, c'est les paroles de la petite chanson que j'ai fait en rentrant et qu'on a mis en générique de fin.
Nova.
Petit renne blanc, égaré dans le vent, je te connais depuis pas si longtemps. Tu as poussé dans le ciel inversé, flocon de neige, tu t'es mis à marcher. Es-tu un ange ou une pelote de laine? Est-ce que tu fonds quand tu gagnes les plaines? Moi je voulais te garder comme l'enfant que j'attendais de l'autre côté de l'océan. Petit renne blanc égaré dans le vent.
Ça vous dit qu'on monte sur la scène du Zénith deux secondes? Ça, c'est mon petit kiff à moi.
Ah bah ouais, c'est un truc hein, quand même. Ah, j'ai quelques souvenirs assez fous ici. Ouais.
Mais quand on joue sur une scène comme ça et qu'on imagine le public rempli, la salle remplie, les gradins remplis, la fosse aussi.
Il y a de l'adrénaline.
On n'a pas un pouvoir, quelque chose?
Si, bien sûr.
Enfin, ça doit être géant quoi.
C'est Dieu, c'est un stage de Dieu quoi. C'est-à-dire qu'on sait que ça dure une heure et demie. Après, tu reprends ta douche, tu mâches un truc et tu reviens quelqu'un de normal. En tout cas, il ne faut pas s'excuser d'être sur scène. Il faut être soi. Si être toi, c'est comme Freddie Mercury ou Bowie, c'est de se faire un personnage génial. Si être toi, c'est être juste Leonard Cohen et être sur ta chaise et être dans l'intensité, peu importe, il y a mille façons d'être soi.
Comment, moi, ce qui m'intrigue, c'est aussi comment on peut aller par-delà la pudeur?
Je crois que c'est le désir.
C'est le désir.
C'est Brel qui disait que le talent, c'est le désir. Et moi, j'en ai très envie.
Vous, c'est une question de survie.
Moi, ça a toujours été comme ça. Mais je fais autrement aussi. C'est-à-dire que je ne fais pas que le concert. Parce qu'en termes de problèmes de démiurge et compagnie, écrire un roman, pardon, mais c'est aussi c'est quelque chose aussi. Enfin, dire aux gens de prendre leur bagnole et de venir, de payer une place, acheter une bière et de venir vous écouter pendant deux heures derrière un micro, déjà, en termes d'ego, c'est quand même c'est costaud. Mais le roman, en plus, tu leur obliges l'intimité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'amour en même temps, on ne fait pas la vaisselle, on écoute quasiment peut-être la musique, mais pas très fort. Mais tout ça, en fait, je crois que c'est... Faut prendre ça comme du désir et de l'aventure, et il faut rester très humble avec ça.
Et comment vous arrivez à rester humble avec ça alors que vous faites tout et que tout ce que vous faites tourne autour de vous?
Toujours. Enfin, même quelqu'un qui fait un documentaire, la façon dont il va cadrer. Par exemple, vous me posez des questions aujourd'hui, mais c'est votre angle, c'est vos questions. Donc vous mettez du vous dedans. Et c'est ça qui est passionnant, ça s'appelle la création. Le truc, c'est que finalement, on rencontre tellement d'embûches. Et on a tellement de moments où on se trouve nul. Et en fait, l'intérêt, c'est le moment où on y arrive quand même. Ça se joue à rien. Quand j'écris La Femme Chocolat pour Olivia Ruiz, le gars de la maison disque dit il n'y a pas de refrain, le texte il est bizarre, il ne faut pas la mettre sur l'album. Notre histoire de Song for Jedi, au début on nous a dit ah mais il y a un refrain en anglais, il ne faut pas la mettre en single. Autant finalement on ne la met pas en single, c'est pas du tout la même trajectoire au groupe.
Nova. Sinon, moi, j'avais une surprise pour vous, comme vous aimez bien les surprises.
Ah bon? Dites-moi.
Je voulais vous emmener au musée des Arts Forains.
Ah, génial!
Mais il faut qu'on se grouille, parce qu'on était attendus.
Eh ben, grouillons-nous.
Super en retard.
D'accord, allons-y. Je mets un petit pull avec des renards dessus.
Ouais.
J'ai un peu froid.
Vous avez toujours des pulls avec des animaux, vous?
On m'offre tout le temps des pulls de Noël, et du coup, j'ai plus que ça, donc je les mets même quand c'est plus Noël. Mais je vous dis, un farfadet, on m'appelait quand j'étais petit. C'était aussi une question de taille, de rousseur. Et c'est vrai que la barbe... ça me pernoalise un petit peu.
Salut le Zénith.
Merci beaucoup.
Et là, on se retrouve sur le périph', en fait.
Ouais, on est derrière, en fait. On est l'entrée des artistes et de livraison.
C'est assez beau. Moi, j'aime bien, au fond, les moulins de Pantin.
Ouais, c'est très beau. C'est ce qu'on appelle les Magic Hours. C'est ce moment où, en fait, où t'as la lumière qui tombe, où on n'est pas encore sur du crépuscule, juste avant qu'on allume les lumières. Et mon moment préféré, moi, c'est le moment où on a déjà allumé les lampadaires alors que ça sert à rien. Et du coup, ça éclaire pour rien. On va arriver du taxi, une Mercedes noire.
C'est exactement ce qu'il nous faut.
Ah bah oui, hein, j'avais demandé. Hein.
Bonjour monsieur.
Bonjour
monsieur.
Oui,
bonjour.
Bonjour.
Monsieur Mathias.
Hein. Oui. Monsieur Mathias, il voudrait aller au cours Saint-Émilion, s'il vous plaît monsieur.
Oui.
Merci beaucoup.
J'enregistre une petite émission de radio pour Radio Nova, ça vous embête pas?
Il n'y a pas de problème, vous pouvez.
Ouais. Vous connaissez Radio Nova?
Oui, oui, il y a beaucoup de musique dans la radio, sur cette chaîne-là, oui.
Vous écoutez quoi, vous, comme musique?
Jazz, soit la musique africaine. En tout cas, la vérité est rarement Nova.
Ah, mais alors, il y a beaucoup de musique africaine sur Nova.
Oui, c'est vrai. Oui,
c'est rare. Le grand mix.
Oui.
Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez petit?
Moi, j'ai beaucoup écouté de jazz New Orleans, justement, par mon père.
Il était musicien ?
Non, mais passionné de jazz. Et il y avait aussi des disques de Brel, de Brassens, beaucoup à la maison. Jerry Lewis, Elvis, tout ça. Et puis beaucoup de jazz New Orleans, Duke Ellington, du bebop, tout ça. Il mettait le dimanche, on mangeait, il y avait la platine Dual et il mettait ses vinyles. Souvent, il commençait par Rock Around the Clock.
C'est pas mal, Rock Around the Clock, pour Jack et la mécanique du cœur qui a une horloge à la place du cœur.
Exactement. J'aime bien ce moment d'explosion là où... la musique noire et la musique blanche se sont mélangées. Il y avait la country, il y avait le blues et c'est devenu le rock'n'roll, il y avait le swing. Ce côté Mississippi comme ça, ça me plaît beaucoup.
Avec votre Stetson, c'est votre côté Stetson, chapeau.
Ouais. Des cow-boys qui jouent aux Indiens en fait.
Oui.
Parce qu'en fait, moi j'aime bien, évidemment, avec ma petite gueule d'Irlandais tout blanc là.
Vous aviez une tente d'Indien dans le jardin quand vous étiez petit.
Exactement. Et une tente d'Indien, c'est les Indiens moi. C'est la marge qui me passionne. Ce côté rural, tous les enregistrements d'Alan Lomax.
Les archives des frères Lomax.
Exactement, qui allaient enregistrer de manière chez les gens qui faisaient du blues chez eux.
Les travailleurs dans les champs de coton.
Exactement, qui faisaient.
Le blues des esclaves.
Ceux qui ont inventé le slide. Donc le slide, on entend beaucoup dans le blues, et on fait glisser un bout de métal sur les cordes et ça fait un son de glisser. Et en fait, on appelle ça le bottleneck. Et ils mettaient le bout de la bouteille cassé sur leurs doigts et ils faisaient glisser sur des guitares avec 2-3 cordes comme ça. Donc c'est vraiment l'art brut de la musique.
Et aussi détourné. On détourne les objets un peu enfantins et on fait de la musique avec.
Oui, parce que je crois que la noblesse d'une chanson ne vient pas de l'instrument qu'on utilise. Elle vient de la composition de manière intrinsèque. On jouerait un morceau de Chopin ou de Brahms avec un xylophone pour enfant, on continuerait de trouver que la mélodie est incroyable.
C'est la mélodie qui est le nerf de la guerre.
C'est la mélodie, c'est le rythme, c'est l'atmosphère. Moi, je suis très très sensible aux atmosphères parce que j'ai toujours imaginé les chansons que je faisais comme des petits courts-métrages. C'est le pouvoir évocateur de la musique. Chaplin qui faisait lui-même ses musiques, tout ce côté ragtime de piano un petit peu déglingue, j'adore ça, quoi.
Et dans votre chemin, s'il n'y avait pas eu la musique, qu'est-ce qui se serait passé, Mathias Malzieu ?
Je sais pas. Il y avait des envies de vétérinaire, de conducteur de train.
C'est très petit garçon, le train.
Ouais, le train, ouais. D'ailleurs, j'ai fait une chanson où j'ai samplé un train qui s'appelle La panique mécanique. Et puis voilà, toutes les histoires de Johnny Cash qui racontait que sa rythmique favorite, il l'a trouvée en écoutant les trains, parce qu'il habitait dans une maison à côté d'une voie ferrée.
Pierre-Henri aussi dit que c'est son préféré, le train.
Ah bah c'est extraordinaire, moi ça me... Et mon son préféré de skateboard, c'est quand je suis sur la dalle vers République. Il y a un endroit où ça fait exactement un son de train. Une pulsation cardiaque et mécanique. On en revient toujours aux mêmes obsessions.
Quand je panique, la mécanique de mon cœur déraille au point que je me prenne pour un vieux train. Locomotive à vapeur qui fait du wheeling sur les rails de mes propres peurs. J'ai peur de quoi? J'ai peur de toi, enfin de moi. Sans toi, regarde, tu vois la vapeur filtrer sous les rails. C'est la panique mécanique de mon cœur. Locomotive, locomotive à vapeur. La panique mécanique de mon cœur. Locomotive, locomotive à vapeur.
Allez les brumes, faites claquer vos trains hantés. À l'heure qu'il est, je peux vous en fabriquer des fantômes de femmes sublimes, blondes ou brunes, à découper à même la brume. Je peux les éventrer sans même les effrayer et signer votre humble serviteur Jack l'éventreur. N'aie pas peur, petit, tu apprendras bien vite à effrayer pour exister. N'aie pas peur, petit, tu apprendras bien vite à effrayer.
On est arrivé.
Merci beaucoup, monsieur.
Bonne soirée. Merci, monsieur. Au revoir.
Merci, au revoir.
Il était cool.
Très cool. Musée des Arts Forains.
On y est.
Regarde, on se croirait dans La Belle et la Bête, il y a des têtes. On se croirait dans Cocteau.
Ah ouais, mais moi je suis tellement fan de Cocteau.
Déjà derrière la grille, c'est super beau.
Ouais, c'est trop beau.
Bonjour, on est Aurélie Sfez et Mathias Malzieu, Radio Nova.
Très bien, un instant s'il vous plaît.
Il y a des chevaux.
Il y a des petits chevaux de bois qui nous disent bonjour. Des arbres lumineux.
Les arbres, on a l'impression que c'est Noël toute l'année. Oui, s'il faut aller, on va où on veut.
Moi, je dirais en face.
On est quand même sur des pavés et au milieu.
Milieu, il y a la voie ferrée.
Il y a la voie ferrée qui passe. Et ça, c'est toujours rassurant. Et là, il y a un miroir déformant, je pense.
Ouais.
On est bien dans ce miroir-là.
On est bien tassé, bien gros. On est des petits gros.
Ouais, ça s'entend à la radio qu'on est petits et gros.
Ouais, ça se voit surtout.
Il y a des
arbres avec des trucs dedans. Ça s'allume encore.
Ouais. Oui, les gros lustres suspendus aux arbres, ça fait bien.
Nova. À la dérive, avec Aurélie Sfez.
Et avec Mathias Malzieu, on s'est aventuré comme deux gosses chez Jean-Paul Favant, le créateur du musée des Arts Forains. Ici, c'est sa maison et nous, on n'en croit pas nos yeux. Des manèges d'un autre temps, des carrousels précieux, des jeux de chevaux, des automates, des licornes, des visions fugitives et des carillons qui jouent tout seuls, tout ce petit monde délirant s'est mis à s'animer devant nous. Le réalisateur de Jack et la mécanique du cœur était chez lui, avec Georges Méliès et compagnie. À la dérive, ça continue dans la boîte à joujou. Et encore, je ne vous dis pas tout.
C'est quand même dingue, hein.
Attends, c'est complètement dingue. Le petit oiseau qui chantonne, avec des arbres qui tiennent des chandeliers, des têtes cachées dans chaque petite niche.
Ouais, un peu dans Blanche-Neige, mais un Blanche-Neige un peu, qui fait un peu peur.
Là, il y a une horloge, ça c'est pour vous.
Bah, c'est très Alice.
Il y a un lapin.
Un lapin dans un arbre.
Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre.
Oh, fermez, moustache, je suis en retard, en retard, en retard.
C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, hey, monsieur.
En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard.
Et c'est vrai que j'aime bien quand il y a une zone de flou entre le rêve et la réalité.
Et là, on y est, là, dans cette zone-là.
Là, oui, parce qu'en fait, on est complètement dans le réel, on est dans Paris, mais les arbres et les maisons se confondent.
Les ronces et les arbres. Il y a du linge qui pend avec des grosses culottes, des pyjamas et des chemises de nuit.
J'arrive.
Des collants, des soutiens-gorge.
Bonjour. Est-ce que vous voulez bien essayer le caleçon?
Bonjour.
Jean-Paul Favant.
Et ça, c'est le micro.
J'ai fait une bise au micro.
Ouais, il faut. Il aime beaucoup les bisous. Jean-Paul Favant, je vous présente Mathias Malzieu.
Enchanté.
C'est exactement le mot, enchanté en plus.
Jean-Paul Favant, vous avez des grands cheveux blancs, une barbe blanche, un beau foulard et vous êtes habillé tout en noir. C'est un personnage de ce théâtre de verdure.
Oh, je voudrais bien, oui, être le petit génie de ces lieux. Quelquefois, je me perds un peu, mais c'est bien, j'aime me perdre.
C'est quand on essaye de créer du mystère, il faut accepter de se perdre.
C'est vous qui avez créé ce lieu.
Oui.
Quelle est votre définition du merveilleux, Jean-Paul Favant?
Le merveilleux, c'est un rêve éveillé. Le merveilleux, c'est ce qui enjolive le quotidien.
C'est une forme d'ardeur poétique aussi. J'adore cet endroit. C'est quand même, c'est extra.
J'entends le bruit de la porte qui s'ouvre. Et là, maintenant, nous, on est devant une montgolfière qui veut évoquer les voyages du baron de Munchausen. Et vous voyez cet éléphant plus léger que l'air qui porte en son sein un monde en miniature et une boîte à rêver.
L'intérieur d'un magasin de jouets presque dans l'obscurité. Par un vitrage, on voit un réverbère qui brûle. À l'extérieur, au premier plan, une grande boîte en bois blanc avec couvercle et un phonographe. Au fond, appuyé contre le mur, Pierrot, Harlequin, Polichinelle et trois poupées d'orme.
Est-ce qu'il y a déjà des tournages de films qui ont été faits ici?
Oh, il y en a un qui émerge, c'est Midnight in Paris de Woody Allen.
Ah oui, bien sûr.
Je peux vous appeler Jean-Paul?
Bien sûr.
Jean-Paul, vous étiez antiquaire. C'est vous qui avez ramené tous ces objets incroyable, toute cette décoration, tout ce théâtre, c'est vous.
Et la mise en scène, c'est vous aussi, la mise en espace.
En fait, ces objets sont des acteurs. Et effectivement, ils ont été mis en scène de manière à ce que le public puisse leur parler, les voir, les comprendre.
Votre personnage de conte préféré, Jean-Paul?
Alice.
Tout cela est très, très curieux. Je suis à la poursuite d'un lapin blanc, alors si vous voulez bien...
Et...
Il est là. Laissez-moi passer, soyez gentil.
Désolé, voyez, la porte est trop petite. Elle est tout à fait impassable.
Vous voulez dire impossible?
Non, impassable. Rien n'est impossible.
Et vous, Mathias?
Ah, Alice, j'adore aussi. Hein. J'ai eu la chance d'aller justement dans la forêt où Lewis Carroll racontait l'histoire à la petite Alice. Et du coup, on peut imaginer le trou du lapin, on peut imaginer plein de choses. C'est du surréalisme. Ça prend la réalité, ça la distord.
On continue.
Donc ici, ce sont les contes, des mythes, des légendes, des symboles et même des clichés.
Ah oh, non, mais je ne sais même pas par où commencer. Mais derrière, là, c'est quoi, vous, la galile au trésor?
Vous voyez, il y a ici un pirate qui a repéré le trésor, mais le trésor est dans l'île d'en face, dans la bouche d'un barracuda.
Avec la licorne?
La licorne, c'est un animal mythique que l'on ne peut jamais attraper. On est dans le même cas de figure.
J'ai rencontré une licorne. J'ai rencontré un renne blanc. C'est à peu près 1 pour 1000. Et quand on en rencontre un, ça lave l'âme. C'est vraiment une créature magique.
Et ça doit être extraordinaire de le trouver, parce qu'un renne blanc dans la neige, ça doit être difficile à voir.
Exactement.
C'est comme vous, Jean-Paul, avec vos cheveux blancs dans la neige. On doit vous perdre.
C'est comme ça qu'il se cache.
C'est comme ça qu'il se cache, Jean-Paul. Et quand vous étiez petit, Jean-Paul, vous rêviez d'un endroit comme ça?
Oui, d'un monde. Je rêvais de construire un monde autour de moi et je me trouverais avec mes animaux familiers.
Vos amis?
Mes amis. C'était une sorte de grotte, mais grotte avec un ciel ouvert au-dessus quand même.
C'est génial. Ça me fait penser au palais du facteur cheval.
Bien sûr, oui. Oh, le palais du facteur cheval.
Qui est l'œuvre bien réelle d'un travailleur du rêve. De jour en jour, il a amassé des pierres. Et il en a fait un véritable palais miniature qui est extraordinairement beau.
Quel est votre signe?
Bélier.
Alors, moi aussi, je suis bélier.
Alors, voilà, vous allez mettre le bélier. Et ça, c'est une projection vidéo sur le mur, sur 11 mètres par 8 mètres, et qui va donner quelques images symboliques correspondantes à votre signe. Cette sculpture de bois sur laquelle on projette des images s'est transformée en palais. Et puis le bélier tape avec son front et il apparaît à un autre palais derrière. Il va encore taper, ça va encore s'écrouler. Et le bélier démarre sans arrêt, comme c'est écrit.
C'est génial.
Vous êtes un bélier, Mathias Malzieu, vous êtes un fonceur en fait, c'est ça?
J'aime bien ça.
Un impulsif, un instinctif.
Oui, j'aime bien ça.
Oui.
On croit toujours que le rêveur est un... n'est que douceur.
Contemplatif.
Mais en fait, il y a énormément de douceur, bien sûr, mais il y a un côté explorateur aussi.
Il y a beaucoup d'action chez l'artiste.
Mais c'est un travail d'artisan aussi, qui fait avec ses mains.
Avec ses mains.
C'est donner une porte d'accès, en fait. C'est dire bienvenue, venez. C'est venez. Quelqu'un qui écrit un poème, une chanson... Il fait une petite passerelle entre les rêves et l'imaginaire. Et ici, voilà, la passerelle, elle est solide, quoi. Et c'est un boulevard.
Ah, c'est
un boulevard. Oh, I beg you, can I follow? Oh, I ask you, why not always?
Jean-Paul, vous êtes quel signe?
Capricorne. Ascendant Verseau, je préfère l'ascendant aussi.
Tu peux actionner le Verseau? J'ai actionné le Verseau.
L'ascendant, en plus, il se développe plus à...
À la quarantaine.
À la quarantaine.
Vous êtes ascendant quoi, Mathias?
Lion.
Moi, cancer.
C'est alors, gentil, mais... le cancer, c'est doux.
Ça adoucit mon bélier. Ouais. Mais vous, le lion, il adoucit pas forcément votre bélier.
Bah, c'est un petit peu, ouais.
C'est feu-feu, hein.
Un peu. Vous avez déjà un peu une tête de lion.
Ouais, hein. Ça vient, ça vient.
Là-bas, il y a le jeu.
C'est un jeu de chevaux. Les chevaux sont en train de courir.
On en fait une, Mathias?
Ah, génial, génial.
Allez, on en fait une. C'est quoi la règle du jeu?
Ça va consister à envoyer les billes. La rouge fait avancer le cheval de 3 pas, la bleue de 2, la jaune de 1. Je vous en prie, commencez la course. Numéro 3 et le numéro 1 ont démarré en même temps. Mathias, attendez un peu, mademoiselle. Hop. Non, elle arrive, elle arrive. Mesdames et messieurs, nous assistons au cheval numéro 3. C'est la Kazakh rouge qui prend une avance absolument extraordinaire sur son concurrent, les autres ayant déjà abandonné. Mais c'est extraordinaire, il y a quand même du suspense. Nous aimerions encore un instant le suspense. C'est gagné pour le numéro 3.
On arrive où ici? Mais c'est fou. Là, c'est la salle de bal, non?
Alors là, c'est, oui, c'est le ballroom. Tous ces personnages en cirque, ce sont des personnages du musée Grévin. Là-haut, c'est Victor Hugo. Dans les gondoles, là, vous avez Gounod, Massenet, Saint-Saëns, Debussy, Réjeanne, la belle Otero. Vous savez, au musée Grévin, quand les artistes passent de mode, eh bien, il faut les remplacer.
Ah,
alors, il ne peut pas les...
Vous ressuscitez ce dont on ne veut plus.
Bah, j'ai intégré dans ma troupe d'acteurs des gens qui continuent
à vivre
et à jouer leur rôle ici.
Qu'est-ce qui se passe quand ce piano prend vie?
Vous allez entendre. Vous avez un orgue de 1925 et ça va jouer en même temps que le piano Yamaha et le carillon mural. Voilà. C'est une basse.
Fabuleux.
Hein, alors quoi, Mathias Malzieu?
Moi, je suis un peu sans voix. Hein, parce que... j'ai l'impression d'être à l'intérieur de ma tête et à l'intérieur de mon cœur en même temps, et en grandeur nature, mais en plus grand que ce que je pouvais l'imaginer moi-même.
Ça vous fait plaisir, hein, cette petite surprise?
C'est plus que plaisir, c'est extraordinaire.
Oh, c'est... Moi, j'ai le plaisir d'être compris. Quand je vous entends parler comme ça, je me dis que ça va.
Jean-Paul, il pourrait être un personnage de vos films.
Complètement.
De votre livre, hein.
C'est extraordinaire.
Je regarde l'heure.
Oui. Jean-Paul est pressé.
Est-ce que vous avez encore un quart d'heure? Est-ce qu'on, est-ce qu'on va dans la réserve?
Quoi dans la réserve?
C'est un autre univers. Parce qu'on va parler d'un lieu où le public ne peut pas forcément aller.
Quoi que, moi, comme vous voulez. Hein. Moi, le truc qu'on ne peut pas aller, ouais, moi, ça m'intéresse
aussi,
toujours.
Hein.
Vous l'avez bien vendu, là.
Ouais.
Vous pourrez butiner votre rêve en déambulant.
Est-ce que vous êtes à la dérive, Mathias Malzieu?
Ah ouais, là, je suis complètement à la dérive. C'est beau d'être à la dérive, lâcher prise, être ouvert à la surprise.
Oh là là, Mazette.
On est dans un palais vénitien au XVIIIe siècle, pareil pour un soir de carnaval.
Le spectacle d'automates.
Ça a réalisé le rêve de Robert Houdin, en fait.
Mesdames et messieurs, il nous vient des endroits les plus reculés du monde, où la magie noire est de rigueur. Je vous présente un homme qui a percé ces mystères.
Vous avez raison quelque part, parce que cet endroit, c'est un lieu consacré à l'illusion.
Robert Houdin, c'est le roi des magiciens.
C'est le, le premier illusionniste.
C'est une illusion, mais la vérité se cache peut-être dans cette illusion.
C'est le premier à avoir fait des horloges magiques, avec des oiseaux chanteurs, de genre de choses comme ça. Et c'est notamment Méliès a racheté le théâtre de Robert Houdin, qui était boulevard des Italiens. Putain, c'est génial.
Fabrique du rêve.
C'est extraordinaire. Oh là là. Là, on est vraiment à l'intérieur d'une machine à remonter le temps complètement.
Je prie de m'excuser. Mathias, je vais vous laisser.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Au revoir.
Il file dans le vent.
J'ai toujours aimé les histoires de beauté des monstres, que King Kong, ça m'a toujours fait pleurer depuis enfant. J'ai toujours adoré E.T.
Elephant Man.
Et d'ailleurs, quand moi j'ai eu mon souci de santé, comme j'ai été transfusé 150 fois, c'est la métaphore fonctionnait bien, mais je me suis mis à me dire que j'étais un vampire.
Qu'est-ce qui a changé chez vous avec ce nouveau sang? Est-ce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre ou pas?
Je suis devenu le même, en mieux et en pire. Parce que, c'est-à-dire que je suis encore plus sur les questions d'intensité et je ne supporte pas les gens en automatique. J'ai besoin de ces explorateurs-là, j'ai besoin d'en rencontrer, j'ai besoin de vivre ça. Ça m'a rendu... un petit peu parano sur certaines choses. Ça, il y a la phrase de Nietzsche qui dit « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort », mais des fois, ça abîme un peu quand même. Non, mais j'aurais préféré faire des enfants, des voyages, plutôt que de vivre ça. We'll be right back. Vous écoutez À la dérive sur Radio Nova avec Mathias Malzieux et Aurélie Sfez. Et maintenant, il y a un tout petit bout de coquelicophone pour la fin du jingle.
Ça, celui-ci. Et des vélos, plein de vélos.
C'est un carrousel, mais avec des vélos d'un autre temps.
Ah oui, alors vous vous mettez sur ce vélo et moi sur la banquette. Yeah. Sa chérie.
Ah oui, bien sûr. C'est tellement un pays de muses.
Mais vous, vos muses, c'est souvent vos fiancés.
Ah oui, oui. Ça vient toujours du réel.
Elles sont contentes d'être vos muses ou c'est parfois lourd à porter?
Je pense que je me suis séparé d'une demoiselle qui était ma muse. C'est parce que j'en ai fait une muse que peut-être que je suis arrivé à la séduire. Mais c'est aussi pour ça qu'elle m'a quitté.
Elle avait peut-être envie que vous l'aimiez pour ce qu'elle est et pas pour le fantasme.
C'est exactement ça. Mais ça peut être lourd à porter, c'est un piédestal.
Et vous dites tout ça en pédalant sur le manège?
Je pédale sur le manège. Ouais, c'est la dynamo. On fabrique des idées. On avance.
Vous auriez aimé vivre dans quelle époque, Mathias Malzieux? Au choix, comme ça, on vous donne une baguette magique et on te dit rendez-vous là.
Fin des années 40, après-guerre, au moment où le blues et la country se transforment en le rock'n'roll.
Boris Vian, quoi.
Ouais, tout à fait, Boris Vian à fond.
Agudule.
Ouais, j'adore.
Un frigidaire. Une
tourniquette.
Pour faire la
vinaigrette.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser.
Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi.
Mais je vous aime bien, Prévost.
Ce bien me crève le cœur.
Vous avez un cœur?
Oui, depuis que Valmont nous a fait rencontrer.
Vous devriez lui être reconnaissant, c'est rare aujourd'hui d'avoir un cœur.
J'espère que ça passera bien, la radio, que les gens arriveront en fait, à imaginer un peu.
Ils imagineront bien ce qu'ils voudront.
Ouais, ce qu'ils voudront. Mais en tout cas, si la machine à rêve se met en route, on aura bien fait notre boulot. On a pris un truc qui nous a amené ailleurs.
T'imagines si on venait ici, qu'on avait pris un truc avant? T'as réussi, t'as pris avec Stasi, ça va plus du tout.
Ah ouais.
Tu deviens fou.
Ouais, je pense que même, il vaut mieux pas même. Tu restes dedans tout le temps. De Nerval, il disait... Je voyage pour vérifier mes rêves.
On est parti du musée des Arts Forains.
Bienvenue dans le réel. On a vécu un truc génial. Ce lieu, c'est une première étape de la chance. On est dans des hautes sphères de merveilleux.
Je suis un drogué du panache. Je suis des cavernes d'Ali Baba plein le crâne, sans faire claquer les orbites. Je m'ennuie jamais, sauf quand on me ralentit. J'ai dans le cœur un feu d'artifice. Véritable homme volcan, c'est de la lave qui coule dans mon sang. Je cherche le spasme électrique de la surprise. Je sais pas dire autrement. Faire le con poétiquement est un métier formidable.
On a quitté le musée des Arts Forains, Mathias Malzieux.
On rentre à la maison et que nous sommes un tout petit peu très très émerveillés. Donc maintenant, il faut rentrer à la maison.
Chez vous, c'est l'émerveillement aussi, il paraît.
Ah ben, vous allez voir, c'est le musée des Arts Forains, mais miniature. C'est mon appartelier.
On ne dira pas où on est, mais on est quelque part dans le Marais. Votre immeuble, il est super beau, il est complètement art déco.
Ouais, et puis en plus, cet ascenseur est génial, parce que c'est un ancien monte-charge. Quand on monte, on voit les étages, donc on a l'impression de passer d'un monde à l'autre.
Quel étage?
3.
Il y a de la musique chez vous?
Oui, en fait, je crois que j'avais oublié de couper le vinyle. Il se remet en mode automatique.
Ah ouais, non, mais vous avez bien fait de m'amener là.
Alors bon, j'ai moins de pièces miraculeuses que le musée des Arts Forains, mais j'ai quand même des skate-agères.
Des étagères en skate?
Là, j'ai mes sièges œufs dans lesquels j'enregistre mes disques vinyles pour le label Eggman Records que j'ai créé en 2014. vous allez voir que en fait le son change quand on se met à l'intérieur. On est vraiment comme dans une cabine de speak. On est bien là-dedans. Hein.
Et alors c'est marrant parce qu'on entend Boris Vian. On l'a chanté celle-là tout à l'heure sur le manège.
Mais c'est vrai. Alors c'est pas fait exprès, hein. C'est pas un truc d'embrouille. Hein.
L'air lugubre, on s'en allait.
C'est Françoise Canetti qui vous a offert ça ?
Ouais, qui est donc la fille de Jacques Canetti, qui était donc le premier DA des Trois Baudets. Et ils ont ressorti Vian en 100 chansons avec un coffret vinyle.
Magnifique, je l'ai vu.
Voilà, et ben c'est ça. On a aussi un Totoro sur une horloge à coucou.
Un ours géant.
Alors en fait, cet ours, je l'ai trouvé abandonné dans la rue. Au début, il était assis ici, et puis finalement, je l'ai suspendu.
Il y a les étagères, un Pinocchio avec Gizmo et un écureuil.
Gizmo, alors attention, hein. Gizmo, c'est...
Il chante, Gizmo ?
Bah ouais. Bon, il chante très faux, le Boris Vian, le Gizmo, mais... Il est pas mal.
Il semble vraiment la chanson de Gizmo.
Ah oui, bah oui. Il est mignon, hein.
Attention, hein, il faut pas lui jeter de l'eau.
Il faut pas qu'il mange après minuit.
Il faut pas qu'il mange après minuit.
Pas la lumière du jour. Sinon, ça peut le tuer.
Il y a quand même un peu de place pour la vaisselle.
Pas beaucoup, hein.
Puis en plus, jouets, hein. Mais il y en a, mais partout, Mathias.
T'as vu ? Là, il y a
On a ouvert un Kinder Surprise, en fait. On a gagné tous les cadeaux dedans.
Bah oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Kinder, il y a beaucoup de surprises. J'aime bien cette étagère-là qui est remplie de surprises Kinder. Et elle m'a donné l'idée dans Une sirène à Paris. Le personnage, à chaque fois qu'il rentre, il y a la voisine qui est un peu triste de le voir seul.
Qui s'appelle Rossi
et qui lui offre un Kinder Surprise. Et j'aimais bien l'idée qu'en fait, ils lui disent « Non, mais vous n'allez pas m'offrir un Kinder à chaque fois que je rentre tout seul ?» On rentre et on voit cette étagère que vous voyez là, remplie de surprises Kinder, ce qui fait qu'en fait, la mesure du temps de son célibat.
Et... C'est pareil pour vous ?
Non, c'est pas pareil pour moi. Mais en tout cas, dans la sensation émotionnelle, c'était proche, oui. Parce qu'il y a eu un moment post-séparation où je m'étais dit avec fierté et déni que je ne tomberais plus jamais amoureux.
Voilà. Là, c'est la guitoune.
J'accorde un peu. C'est une Kalamazoo, c'est une vieille guitare de blues d'une marque pas extraordinaire. Mais elle a un caractère incroyable. Cette chanson que j'ai écrite du coup en chambre stérile avec cette guitare.
J'ai traversé l'Islande sur un skateboard à moteur. Je n'ai plus peur des volcans, je suis l'un des leurs depuis bien longtemps. J'ai changé de groupe sanguin, mais pas de groupe de copains. Dionysos est né deux fois, sous mes os c'est aussi comme ça. Nouvelle vie qui fleurit, c'est l'espoir planté sous mes os. Ce n'est pas un conte de fées, mais ça peut y ressembler. Je suis un nouveau-né. 40 ans passés, je ne suis plus un vampire. J'ai brûlé mon pyjama.
À la dérive, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain. Le nouveau livre de Mathias Malzieux s'appelle « Une sirène à Paris ». Son expo photo est toujours au Zénith jusqu'en juin et son documentaire « Norvège, l'appel du merveilleux » est encore disponible sur le site d'Arte jusqu'au 6 avril. À la dérive, c'est Aurélie Sfèze au micro, Bertrand Chompton aux manettes et en podcast sur nova.fr. À dimanche prochain et d'ici là, on continue de s'émerveiller sur Nova.